pour adorer Dieu ensemble dans la famille de Dieu. Alors, si vous vous rappelez, nous avions commencé une série sur Romains l'année dernière et nous avions lu les chapitres 1 à 8. Tout à fait, on voit que c'est chapitre 9, verset 1, donc c'est facile. Vous étiez aidés. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de la vision de notre Église. La vision de notre Église, c'est que nous puissions grandir ensemble comme une Église unie, comme une famille unie pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile à ceux qui nous entourent jusqu'à son retour, jusqu'au retour de Christ. Et on voit dans les lettres de Paul quelque chose d'important, c'est que la théorie, ce que l'on croit, n'est jamais détachée de la pratique. Et dans Romains, du chapitre 1 au chapitre 12, nous voyons la théorie. Et à partir du chapitre 12, il commence avec la pratique. Il nous dit « Ainsi donc, basé sur tout ce qu'on a vu dans la théorie, maintenant, pureté, amour, service, soumission, etc. etc. » Théorie et pratique vont de pair. Et aujourd'hui, si nous voulons vivre cette Église qui grandit, une famille unie qui annonce autour de nous l'amour de Christ jusqu'à son retour, on a besoin d'avoir une théologie solide, une croyance solide. Et les chapitres 9 à 12 font partie de ce socle de théories, de choses que nous devons croire pour pouvoir appliquer bien ce que Dieu veut que nous appliquions. C'est indissociable. Et donc, c'est ce que nous allons voir ce matin. Et les chapitres 9 à 12 abordent un sujet qui met à mal quelque part quelque chose dans notre vie qui est une croyance. Et on l'a chanté ce matin, on a chanté un pilier de la foi, un pilier de notre foi en tant que chrétien, c'est quoi? C'est la fidélité de Dieu. Si vous venez ici ce matin, si nous continuons à venir à l'Église jour après jour, et si nous croyons en Dieu, c'est parce que nous sommes fidèles dans ces promesses que nous avons lues jusqu'en Romains 8, qu'il ne nous abandonnera jamais. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, rien ne te séparera de l'amour de Dieu. C'est une chose fondamentale pour le croyant. Sauf que, quand on lit ces lignes, on peut se poser, mais Paul, et alors, Israël, choisi de Dieu, élu de Dieu. Dieu n'est-il pas fidèle à sa promesse envers Israël? Et cela pose des grosses questions, et c'est à ces questions qui sont très piquantes, qui posent la question de la fidélité de Dieu, même à notre égard, que Paul répond dans les chapitres 9 à 11, socle fondamental pour tout ce qui viendra après. Et je vous invite à prendre avec moi le passage de ce matin qui est le début, le commencement du chapitre 9, où Paul, avant de s'attarder à ses questions, à ses réponses, à apporter des réponses à ses questions, nous ouvre son cœur. Alors je vous invite à prendre Romains 9, versets 1 à 5, et on va même lire à partir du chapitre 8 au verset 37 les trois versets qui précèdent pour avoir la liaison. C'est les pages 738 dans les Bibles qui sont devant vous sur les pupitres. Romains 8, verset 37. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Oui, je voudrais moi-même être maudit et séparé de Christ pour mes frères, mes propres compatriotes, les Israélites. C'est à eux qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches. C'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité, lui qui est au-dessus de tout. Dieu béni éternellement. Amen. Seigneur, je prie que tu nous conduises pendant ce temps où nous lisons ta parole, où nous étudions ta parole ensemble en Église. Parle à nos cœurs, transforme nos vies. Que ton esprit vienne et agisse, Seigneur, par ton humble serviteur. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vais vous poser une question difficile. Seriez-vous prêt à mourir pour votre voisin? Seriez-vous prêt ou prête à sacrifier toute votre vie pour lui ? À renoncer à tous les bénéfices pour son bénéfice à lui ou elle ? Et encore, on peut se dire, ok, si pendant cette vie sur terre, je le fais, à condition qu'il y a l'éternité derrière, alors ça va. Je peux encore peut-être imaginer que je sacrifie tout sur terre, mais après, j'ai le jackpot au ciel. Mais seriez-vous prêt à sacrifier votre vie éternelle ? Seriez-vous prêt à sacrifier la relation avec Dieu, avec Jésus éternellement pour un autre ? Un tel niveau d'engagement, ça a l'air difficile à croire, n'est-ce pas ? Si je me pose la question tout seul, je me dis, mais je ne sais pas si j'en serais capable. J'ai l'impression que j'en serais pas capable. Mais voici ce que nous dit Paul. Oui, je voudrais moi-même être maudit et séparé de Christ pour mes frères. C'est un exemple tellement incroyable, tellement contre-culturel, tellement choquant. On nous apprend dans la vie qu'il faut faire les choses pour son propre bénéfice. Si je te donne des bonbons à la cour de récré, c'est parce qu'en échange, j'aurai peut-être 2 points en plus, ou parce que tu pourras me laisser regarder, ou en échange d'un jouet, ou à la limite pour la réputation. On se fait bien voir, on se fait des amis, on les achète à coups de bonbons. Dès notre plus jeune âge, c'est comme ça. Mais Paul nous montre un principe qui est impressionnant. Il dit, n'utilise pas l'autre pour ton bénéfice, mais utilise ta propre vie pour le bénéfice de l'autre. Cherche à faire grandir l'autre au détriment de toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Aussi beau, je pense qu'on est d'accord, ce principe, il est magnifique. Il est beau, il donne envie. Les gens qui vivent comme ça, c'est des modèles. Mais quand je regarde à ma vie, quand je regarde à mes attitudes dans le métro, quand quelqu'un souhaite s'asseoir et que je suis déjà assis, ça me fait réfléchir. J'aimerais bien rester assis. Alors bon, je vais me lever parce que qu'est-ce que vont penser les autres ? Mais encore une fois, c'est mon bénéfice qui est souvent mis à mal. Et plus notre prochain, dans aimer notre prochain, plus notre prochain est loin de nous, moins il est proche, moins on a du mal, plus on a du mal à l'aimer. C'est loin des yeux, loin du cœur, on connaît l'expression. Il y a une loi en journalisme qui s'appelle la loi de la proximité, c'est-à-dire qu'on s'intéresse principalement à ce qui se passe près de nous dans le temps, dans l'espace, et plus c'est proche de nous, plus ça nous intéresse. Mais si c'est à l'autre bout du monde, ça ne nous intéresse pas. La loi de la proximité. Mais Paul nous dit ce matin, je suis prêt à être séparé de Christ, tout sacrifié pour qu'il soit connecté. Alors j'aimerais qu'on puisse voir ensemble ce matin 3 choses. Qu'est-ce que ça signifie vraiment un amour sacrificiel, selon ce texte ? Deuxièmement, est-ce que c'est vraiment possible de l'éprouver, nous aussi ? Est-ce qu'on en a envie ? Et troisièmement, si oui, comment y parvenir ? Premièrement, un amour si sacrificiel, c'est difficile à croire. Comme l'indique d'ailleurs le premier verset, nous lisons, il dit « Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. » On a l'impression qu'il va dire un mensonge. Je ne sais pas si ça vous arrive déjà, les gens disent « Ah non, je t'assure, c'est vrai, ce que je vais dire, c'est vraiment une vérité. » Ouais, merci Denis. C'est vraiment la vérité, je te mens pas, je t'assure. On a l'impression quand les gens font ça des fois qu'ils vont nous embobiner. Ils veulent dire, assurer qu'ils vont dire la vérité pour qu'on les croit, parce qu'ils savent que quelque part c'est un peu douteux ce qu'ils vont dire. Et Paul ici, c'est l'inverse. Il sait que cette chose qu'il va dire est tellement monumentale, semble tellement surhumaine, qu'il a besoin de prouver, de mettre l'emphase sur cette réalité difficile à croire. Il ne dit pas un mensonge, très clairement. Et il sait ce qu'il dit quand il dit ça. Si vous vous rappelez des 8 premiers chapitres de Romains, qu'est-ce que ça voudrait dire, être séparé de Christ, être maudit ? Ça voudrait dire retourner à 1:18-3-20, la colère de Dieu envers toute l'humanité, dont Christ nous a sauvés, c'est retourner dans cet état où nous sommes exposés à la colère de Dieu et renoncer à la grâce de dans l'Évangile, telle qu'il l'avait décrite en 3:21-8:39. Pour vous rafraîchir la mémoire, vous voyez ici les 8 premiers chapitres de Romains, selon un plan de John Stott, le théologien. il sait de quoi il parle. Ce n'est pas un vœu pieux fait à la légère quand il dit « je renonce, je serai même prêt à renoncer à ma relation avec Christ ». Ça veut dire tout ce qu'on a vu dans les huit chapitres passés. Notamment, renoncer à Romains 3, 8, tous les bénéfices de la foi. Renoncer à la présence de Dieu. Renoncer à l'amour de Christ déversé dans nos cœurs, chapitre 5. Renoncer à l'Esprit de Dieu qui parle dans nos cœurs et qui prie par notre bouche et qui dit « Abba Père », chapitre 8. Renoncer à la douce relation avec Dieu. Renoncer à l'assurance du salut. Renoncer à la justification. Renoncer à l'espérance. Il a conscience que ça veut dire tout ça. Est-ce que vous seriez prêt à renoncer à ça pour quelqu'un d'autre? Est-ce que vous seriez prêt? Pour rien au monde, on dirait pour rien au monde, mais Paul dit qu'il l'est. Et la deuxième chose, c'est qu'il a conscience qu'il s'exposerait de nouveau au jugement de Dieu à venir. Celui dont Christ l'avait libéré, celui qui était annoncé dans le chapitre 1 à 3. Et il y a plein de textes dans la Bible qui parlent du jugement de Dieu, de sa colère, mais j'en prends deux pour montrer un peu le poids de ce que ça veut dire. Ésaïe 30, versets 27 à 28. L'Éternel arrive de loin. Sa colère est ardente, elle pèse lourdement. Ses lèvres sont pleines de fureur et sa langue est comme un feu dévorant. Son souffle est pareil à un torrent qui submerge tout jusqu'à la hauteur du cou. Il passera les nations au crible de la destruction. Il passera aux mâchoires des peuples le mort de l'égarement. Puis plus loin dans ce chapitre. Depuis longtemps, le bûcher est prêt et c'est pour le roi qu'il a été préparé. C'est un endroit profond et large. Son bûcher est composé de feu et de beaucoup de bois. Le souffle de l'Éternel l'enflamme comme un torrent embrasé de soufre. On a cette image d'un puits de feu où seront jetées toutes les puissances, le roi et les puissances. La colère de Dieu, chapitre 1 à 3 de Romains, qui attend toute l'humanité. Je suis prêt à être séparé de Christ et maudit si cela permet à ce que mes frères puissent être sauvés. Paul a largement conscience de ce qu'il est en train de dire. Il est prêt à sauter dans l'abîme si cela permet à ses frères d'en échapper. Et laissez-moi préciser une chose. Ces frères dont il parle, ce sont ceux qui, depuis des années, le poursuivent, le malmènent, le calomnient, le fouette, lui jette des pierres. Si on suivait ces tortures à répétition, je crois que contre un certain groupe, nous aurions plutôt de l'aversion, nous aurions plutôt du... On serait en colère contre eux. Et le décalage est frappant. Prêt à tout sacrifier pour eux. On a l'impression que Paul a ce que Jésus avait dit en tête. Je vous lis, je ne sais pas si je l'ai mis là. Je ne l'ai pas mis, mais aimez vos ennemis, Luc 6, 35, mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien attendre en retour. Votre récompense sera grande, car il est bon, car vous serez comme Dieu, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Vous serez comme Dieu. Paul écoute la parole de Jésus, aimez vos ennemis. Laisse-moi te demander, mon frère, ma sœur, et je me pose la question aussi, je me suis posé la question cette semaine, est-ce que nous avons déjà aimé quelqu'un comme ça, ou un groupe de personnes comme ça? Prêt à tout sacrifier, même la vie éternelle. Parfois, je sais que parmi nous, on se fait souvent du souci pour les perdus. On a des gens, de la famille, des gens qu'on aime. Mais à ce point-là, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La barre est haute. Parce qu'on connaît la dureté de notre cœur. Je parlais du métro, il n'y a pas si longtemps, mais effectivement, je vois très bien comment sur des petites choses, que ce soit des bonbons ou alors juste me lever pour laisser ma place à quelqu'un, il y a une résistance dans mon cœur. Je préfère garder mon bénéfice plutôt que le bénéfice de l'autre. Alors quand je lis Paul qui est prêt à tout abandonner, la question maintenant c'est, est-ce possible de changer? Est-ce que mon cœur peut changer? Et Paul nous dit, nous voyons ici et ailleurs qu'un amour si sacrificiel que celui-là, c'est possible. C'est possible pour Paul et c'est possible pour nous. Et il veut nous en convaincre. Il le dit dans le premier verset, j'y reviens. « Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. » Paul met un point d'honneur à convaincre ses lecteurs. C'est vraiment vrai, c'est vraiment ce que je ressens. Je ne suis pas en train d'en rajouter une couche, je ne suis pas en train de la jouer à la... Bon, il n'y a pas de Marseillais dans la salle, à la Marseillaise, c'est pas la sardine qui a bouché le port à en rajouter des caisses. Non, c'est vraiment vrai. Et il y a plusieurs choses qui pourraient nous faire douter. Depuis le début du de Romains, il tire un peu dans les pattes des légalistes pharisiens en leur disant ils en rajoutent trop, ils en font trop, il est quand même assez dur envers son peuple. Après, on voit que dans son ministère, il est plutôt concentré sur les non-juifs, pas vraiment sur les juifs. Donc on peut dire, vraiment, tu les aimes, parce que toute ton énergie, elle est plutôt vers les non-juifs. Et puis quand on va voir les arguments de chapitre 9 à 12, on les verra plus tard. Mais est-ce que vraiment, on peut dire qu'on aime les autres s'il y a l'élection, si Dieu choisit par avance? Est-ce que tu peux vraiment dire que tu aimes si tu affirmes cela? Mais on verra ça plus tard. Donc, il y aurait des doutes, on a le droit de se poser des questions. Vraiment, Paul, est-ce que tu dis ça? Mais Paul nous confirme qu'il y a le témoignage de sa conscience. Il utilise 4 affirmations pour mettre les couches. Cette affirmation est vraie, il prend Christ à témoin. Je ne suis pas un menteur, ma conscience en est témoin et le Saint-Esprit en est témoin aussi. La conscience peut parfois mentir, mais par le Saint-Esprit, et en prenant Christ en référent, il nous affirme, c'est vrai. Laissez-moi vous poser cette question. Que dit votre conscience? Que dit votre conscience par rapport à ce sujet? Cela fait maintenant... ça fait maintenant 22 ans que je suis chrétien. 22 ans que je marche avec Christ. Et je crois que je réalise que durant ces dernières années ce que ça veut dire de vivre pour les autres. On a une idée dans notre tête. Mais de vraiment aimer son prochain comme soi-même, vraiment de dire, de faire, de servir, de s'avancer, de parler, d'être là ce matin de manière totalement désintéressée, de me dire « je ne fais pas ça pour moi ». Et là, c'est la conscience, une conscience qui est dans notre cœur. Je l'ai un peu déjà expérimenté, un peu. Ça te donne une certaine forme de paix, tu sais que c'est l'Esprit Saint qui te donne ça, c'est l'Esprit Saint qui avance, c'est l'Esprit Saint qui agit au travers toi, c'est l'Esprit Saint qui est à l'œuvre. Ça ne peut pas venir de toi, ce n'est pas humain, comme on dit, c'est juste contre-naturel. Mais aussi cette souffrance de dire qu'il y a un déchirement en soi, la mort à soi-même, la conscience peut nous informer de si on a déjà vécu ça ou pas. Je ne sais pas si ça vous parle. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Est-ce que votre conscience, vous avez déjà l'impression qu'elle vous dit oui pour telle personne, pour tel groupe de personnes? L'abandon total, pas mon bénéfice, son bénéfice. On est souvent bien plus égoïste. Que dit le témoin de votre conscience? C'est la première chose. Le témoin de la conscience de Paul. La deuxième chose qui peut nous permettre de savoir que c'est possible aussi pour nous, c'est l'exemple de nos pères. Il y a dans la parole d'autres exemples de personnes prêtes à tout, sacrifiées pour leurs frères. Et dès l'Ancien Testament, on voit Moïse, après la catastrophe, la chute du peuple, Dieu veut détruire tout le peuple. Et Moïse dit, pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Exode 32-32. Prêt à tout sacrifier, prêt à être retiré du livre de Dieu pour les autres. C'est possible. On savait que Moïse était rempli de l'Esprit de Dieu. Et celui qui rend toute chose possible, l'exemple par excellence, Jésus. Paul dit qu'il aimerait être séparé de Jésus, tout sacrifier, être maudit pour ses frères, mais en réalité, il ne peut pas le faire. Parce qu'on a vu au chapitre 8, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, parce que Jésus l'a fait. C'est possible parce que Jésus l'a fait. Jésus a sauté. Ce que nous avons vu dans le chapitre 1, séparé de Dieu, prêt à s'exposer à son jugement, séparé de sa présence, Jésus l'a fait. Il s'est abandonné entre les mains des hommes qui ont pris ses vêtements, qui ont enfoncé une couronne faite d'épines dans sa peau, dans son front. Ils ont enfoncé les crocs de leur fouet dans son dos. Ils ont enfoncé des clous dans ses mains. Il a tout sacrifié. Il a tout sacrifié jusqu'à ce moment-là, quand il a dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Privé de la présence de Dieu complètement. Maudit sur le bois, comme nous dit Paul dans Galates. Il a été maudit sur le bois. Il a été privé de sa douce présence. Dans Ésaïe, il est dit qu'il était écrasé par la colère du Père pour nous. Ce que Paul décrit dans ce passage, Jésus l'a fait. Et c'est pour ça que c'est possible. C'est pour ça que Paul peut le dire, parce que l'Esprit de Jésus est en Paul. C'est pour ça que Moïse peut le dire, parce que l'Esprit de Dieu est en Moïse. Cet sacrifice de soi jusqu'à tout donner pour le bénéfice de l'ordre, c'est quelque chose de totalement divin et de pas humain. Mais c'est possible parce que Jésus l'a fait et peut le faire en nous. Notre conscience le dit et nos pères nous montrent l'exemple. J'aimerais prendre un dernier exemple plus proche de nous, de quelqu'un qui a vécu et a sacrifié sa vie pour les autres. Hudson Taylor, missionnaire en Chine, ça parle à cette église, qui, alors qu'il était abattu par le sort des Chinois et qu'il était chez lui, en Angleterre, est en train de se poser la question « Est-ce qu'il faut que je lance une nouvelle mission ?» Et voici son témoignage. Le dimanche 25 juin 1865, incapable de supporter la vue d'une assemblée d'au moins 1000 chrétiens se réjouissant de leur propre sécurité, alors que des millions de personnes périssaient par manque de connaissances, j'ai déambulé seul sur le sable en proie à une grande agonie spirituelle. Et là, le Seigneur a vaincu mon incrédulité et je me suis abandonné à Dieu pour ce service. Je lui ai dit que toute la responsabilité des questions et des conséquences devait reposer sur lui, qu'en tant que son serviteur, c'était à moi d'obéir et de le suivre, à lui de me diriger, de prendre soin de moi et de me guider, ainsi qu'à ceux qui pourraient travailler avec moi. Dois-je dire que la paix a immédiatement afflué dans mon cœur accablé. Je lui demandais alors 24 compagnons de travail, 2 pour chacune des 11 provinces intérieures qui n'avaient pas de missionnaires et 2 pour la Mongolie. J'écrivis cette requête en marge de la Bible que j'avais avec moi. Je rentrais chez moi, le cœur en repos, comme il ne l'avait pas été depuis des mois. Un occidental qui a tout quitté, abandonné sa vie pour aller à l'autre bout du monde fonder une mission pour toucher les Chinois. Et beaucoup des personnes qui sont ici dans cette salle sont le fruit d'un homme qui a sacrifié sa vie pour que des hommes puissent le rencontrer, pour que des hommes d'une autre nation puissent le rencontrer, des hommes qu'ils ne connaissaient pas du tout puissent le rencontrer. Comment est-ce possible? Tout sacrifier. Ses enfants, des enfants sont morts en voyage, ses enfants sont morts sur place, il a enterré ses épouses, il a traversé la révolution culturelle. Vraiment. Un exemple d'amour si sacrificiel. Et c'est possible pour nous aussi. J'aimerais nous dire que c'est possible pour nous aussi. Et je le vois encore autour de moi. Il y a certaines personnes autour de moi, des gens qui sont engagés. Je pense notamment à des missionnaires en France qui sont là, qui soutiennent le stage que je suis en train de faire ici, de Timothée 2:2. Et j'ai entendu une fois cette phrase qui m'a frappé. Notre objectif, c'est d'investir au maximum dans la vie des autres pour qu'ils puissent grandir. Notre objectif, c'est d'investir au maximum dans la vie des autres pour qu'ils puissent grandir. On pense souvent à investir dans notre vie, on calcule, on fait notre plan, etc., de carrière, investir dans notre vie. Leur objectif, c'est investir dans la vie des autres. Le revenu n'est pas pour soi, on n'a aucun dividende là-dessus. J'investis pleinement dans la vie des autres. Un investissement désintéressé, c'est possible par le Seigneur. Alors, est-ce que vous croyez que c'est possible? C'est la question que j'aimerais vous poser. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Est-ce que pour nous-mêmes, c'est possible aussi? Que l'Esprit du Christ en nous puisse faire cela? À ce niveau-là, est-ce possible? Est-ce qu'on est prêt à s'ouvrir à un mode de changement de pensée? À peut-être une autre manière de voir le monde que ce à quoi on a pensé jusque maintenant. Je reconnais, j'ai besoin de changer, j'ai besoin d'être embrasé. On est aujourd'hui au jour de la Pentecôte, n'est-ce pas? Ils étaient là, apeurés dans la chambre haute, acte 2. L'Esprit est venu, les a embrasés, est descendu sur eux et ils se sont répandus. L'Église, le mouvement de l'Église a été lancé par le Saint-Esprit qui a changé leur cœur. changement de pensée. Le Saint-Esprit, encore plus, comme Paul, comme Hudson Taylor, comme ses missionnaires, comme des exemples aussi qu'on a peut-être dans nos vies. Un investissement totalement désintéressé, un amour sacrificiel. Alors comment est-ce que c'est possible? Je viens déjà de donner une piste de réponse. Et nous voyons dans ce texte que Paul continue et semble expliquer pourquoi il a ce chagrin ardent, ce désir vraiment de voir ses frères sauvés. Je lis au verset 4. Les Israélites, c'est à eux qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches. C'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Paul constate quelque part le gâchis. Le peuple d'Israël avait tout. Un gâchis phénoménal. Jésus avait souffert pour eux, pour sauver l'humanité, mais on voit dans Romains chapitre 1, que c'était d'abord pour sauver les Juifs. La bonne nouvelle pour les Juifs d'abord, puis les non-Juifs. Et il nomme 8 bénédictions du peuple d'Israël qui sont comme jetées à la poubelle parce qu'ils ne reconnaissent pas le Seigneur. La première, c'est l'adoption comme fils, qui fait référence à Exode 4, 22. Dieu avait dit, je te prends comme mon fils. Il a adopté ce peuple comme son fils. C'est parce qu'il a adopté, qu'il a cette relation filiale avec son peuple que nous pouvons dire, par son esprit, Abba Père, relation filiale, adoption, jetée à la poubelle. Deuxièmement, la gloire divine, qui fait référence à la gloire de Dieu. Ils avaient vu la gloire de Dieu sur la tente, sur le tabernacle. La gloire de Dieu, la présence visible, l'expression visible de la gloire de Dieu, la Shekinah en hébreu. Et Jésus est encore la plus grande manifestation de cette gloire, jetée à la poubelle. Les alliances faites avec Abraham, avec Moïse, avec David, toutes ces relations, les engagements de Dieu, inutilisés, inutiles. La réception de la loi, les règles que Dieu avait données, les 10 commandements, l'ensemble de la loi, la révélation, toutes ces choses que Dieu leur avait données pour qu'ils le connaissent et qu'ils l'adorent, qu'ils gardent ses commandements et qu'ils les bénissent. Cinquièmement, le culte du temple, qui est bien décrit dans Hébreux 9, 1 à 5. La manière dont on pouvait s'approcher de Dieu parce que le sang des agneaux coulait et nous révélait le besoin d'un sacrifice supérieur. Tout ce que Dieu leur avait donné, le culte du temple inutilisé. Les promesses qui font référence aux nombreuses prophéties et de l'Ancien Testament et de la Bible, toutes ces choses. La venue d'un Messie qui était annoncée par la bouche de milliers, de plein, peut-être pas des milliers, mais des centaines de prophètes. Et les patriarches, qui ne réfère certainement pas simplement à Abraham, Isaac, à Jacob, mais en fait à tous les pères du peuple d'Israël, Joseph, Moïse, Josué, Samuel, David, toutes ces histoires que nous entendons à l'école du dimanche, toutes ces choses que Dieu leur avait données. Et enfin, le plus grand des gâchis, c'est d'eux que vient l'ascendance humaine de Christ. Jésus-Christ vient d'eux. Jésus-Christ est juif, né parmi les juifs, fils d'un juif, il est de leur peuple. On l'oublie souvent, mais Jésus est encore juif. Il est juif, mort pour toutes les nations, mais il est né juif. Jésus en tant qu'homme est juif. Et Paul, devant ce gâchis monumental, est juste attristé. Je ne sais pas si vous avez vécu des gâchis terribles dans vos vies. Des fois, on a des gâchis. Parfois, c'est pour des petites choses, mais rien que pour des petites choses, on sent un déchirement à l'intérieur. Ah ! C'est tellement inutile, c'est tellement gâché. Pour du temps gaspillé, pour de l'argent gaspillé, pour... Juste si j'avais été ailleurs, j'aurais payé 5 euros de moins. Pour des petites choses, le... Oh, ça... Et puis ça monte là, mais je suis trop bête. Le gâchis. Non, parfois, ça peut... Ouais. Mais imaginez la taille monumentale du gâchis. L'offre de Christ totalement négligée. Et ce gâchis, il le réalise comment? Parce qu'il prend le temps d'observer. Il voit tout ça, il constate, il voit, il fait l'état des lieux. L'offre de Christ, toutes ses promesses, et malgré ça, séparé de Christ. C'est déchirant. Mais regardons autour de nous. Et peut-être que c'est la première étape pour que nous puissions nous aussi nous rapprocher de cette compassion, de cet amour sacrificiel pour ceux qui sont autour de nous. Mais la France, avec ses clochers, avec ses églises, avec ses noms de rue, avec la parole, avec les croix au carrefour, avec les noms de famille, je m'appelle Levesque, avec les noms de famille qui s'appellent Pasteur, on a un passé, on a un accès, on a eu un accès à la bonne nouvelle de Christ. C'est un véritable gâchis de voir que par tant de personnes, c'est laissé de côté, c'est laissé à l'abandon, c'est ignoré, considéré comme pas important. Pour les nations, il y a des peuples qui n'ont même pas accès à l'Évangile, mais l'effort missionnaire est dirigé principalement vers les peuples qui ont déjà accès à un accès à l'Évangile, avec des Bibles traduites, avec des centres missionnaires sur place. Mais il y a encore plus de 3000 peuples où il n'y a même pas de traduction dans leur langue biblique, ou juste une petite portion. Ou dans les 10 000 personnes autour d'eux, ils n'ont pas de chrétiens à qui ils peuvent demander ou entendre l'Évangile. Un gâchis d'efforts missionnaires. Et pour Israël, ce gâchis, peut-être qu'il est loin de nous. L'Israël, c'est loin, c'est à l'autre bout du monde. C'est loin culturellement, c'est loin linguistiquement, c'est très loin. Qu'est-ce que j'ai... Voilà, Israël, pour moi, ça nous parle peut-être pas beaucoup. Mais considérons le gâchis dans le cœur de Dieu. Dans le cœur de Dieu. Ce que Paul exprime, c'est le cœur de Dieu. Jésus est juif. Quand il a dit devant Jérusalem, il a pleuré comme une mère qui a tenté de rassembler ses petits sous ses ailes à de nombreuses reprises. Combien de fois ? C'est le cœur de Dieu. Et si nous sommes indifférents, pensons au cœur de Dieu. Ce gâchis pour Israël est immense. Et c'est la première chose, je pense, pour Paul, pour nous, pour Jésus, pour avoir cette compassion. La première étape, c'est bien l'observation, de considérer le gâchis monumental d'une humanité, de personnes que nous connaissons, d'amis, de gens qui nous entourent, ils se fichent totalement de ce cadeau qui est à leur portée. Ils se fichent totalement d'être en relation avec Dieu. Ils se fichent totalement de Jésus-Christ. Et c'est quoi notre réflexe face à ça ? C'est exactement la même chose que quand... il se passe quelque chose qu'on n'aime pas voir dans le métro ou dans la rue, on va détourner le regard. C'est normal, on a envie de se protéger quelque part. C'est des choses qui ne sont pas belles à voir. Quand on voit un gâchis, on préfère détourner le regard. Mais ce qu'on voit de commun dans les missionnaires, ce qu'on voit de commun dans les gens qui sont vraiment levés, qui ont été dans cet amour sacrificiel, c'est qu'ils ont regardé. Ils ont regardé, ils ont regardé, ils ont regardé. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Ils n'ont pas détourné le regard des faits. Ils ont affronté la réalité en face. Ils l'ont présenté devant Dieu. Et notre tentation, c'est malheureusement de penser à autre chose. On a d'autres choses à penser. J'ai d'autres choses à penser. Y penser. Constater le gâchis, comme Paul le fait. S'en attrister. Et c'est la deuxième chose. Se laisser toucher par le Saint-Esprit, se laisser toucher par les sentiments de Dieu. On a peur des sentiments, parfois. On préfère ne pas les accueillir, surtout quand c'est des sentiments de tristesse, c'est des sentiments négatifs. On préfère les repousser le plus loin possible de nous. Il y a quelque chose de normal là-dedans. Mais il s'agit des sentiments de Dieu, de son propre cœur. Et quand Paul dit que il ne ment pas et il parle de la part de Christ, il en a conscience par son témoignage du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui parle au cœur de lui. S'il n'avait écouté que Paul, il se serait rappelé juste de toutes les tortures qu'il a vécues, des coups de fouet, des coups de pierre, etc. etc. Mais s'il regarde les faits éveillés par le Saint-Esprit, alors la compassion vient. J'aimerais nous encourager à regarder et à ne pas endurcir notre cœur. À regarder et ne pas endurcir notre cœur. Et j'aimerais conclure par une petite image. Dans toutes les époques, il existe comme une bulle de confort. Hudson Taylor parlait de la bulle de confort, du confort du salut qu'avaient ces 1000 personnes qui se rassemblaient dans l'église. Et dans toutes les époques, il y a cette bulle de confort. On est là comme entouré d'un voile ou d'un scaphandre, pour résister un peu à la pression, à tout ce qui peut se passer à l'extérieur de nous. Et comme j'ai pris cette image, on l'observe très clairement dans le métro. En plus aujourd'hui, écouteurs, téléphone, parfois un livre. On ne sait pas vraiment ce qui se passe autour de nous. S'il y a quelqu'un qui passe dans la rue, dans le métro et qui fait ça comme ça, on fait presque comme si on ne l'avait pas vu, et on ne l'a peut-être pas vu, parce qu'on est vraiment dans notre bulle, mais il y a comme une bulle autour de nous. On est dans notre monde. Je préfère ne pas y penser, c'est plus simple. Je préfère pas trop me poser de questions, c'est plus simple. Je préfère endurcir mon cœur, c'est plus simple. Et en tant que chrétien, c'est un peu pareil. On a peut-être parfois cette bulle du salut. De se dire, c'est bon, tranquille, je connais Jésus, je suis en vie, je suis en paix, je suis sauvé. C'est merveilleux. Bulle du salut. Et c'est des merveilleux cadeaux de Dieu. Mais jusqu'où on reste dans cette bulle sans être concerné par ce qui se passe à l'extérieur, sans regarder à ce qui se passe à l'extérieur? Quelle relation on entretient avec ce qui se passe en dehors de la bulle? Il y a plusieurs niveaux. On peut être dans une relation d'indifférence totale. On n'a même pas vu ce qui se passe. On ne regarde pas. On peut être un spectateur qui voit, peut-être d'un regard agacé ou d'un regard compatissant, peut-être. C'est l'étape suivante. On peut être un spectateur vraiment compatissant qui est vraiment en train de compatir avec la personne qui est en train de vivre quelque chose. Il a regardé et il a laissé son cœur être touché. Il a déjà ouvert une partie de sa bulle. Là. Son cœur a été touché. Et après, il y a celui qui arrête d'être spectateur et qui devient acteur, qui se lève, qui s'approche, qui pose une question, qui s'agenouille s'il y a un besoin, si la personne est dans une situation de crise, qui fait de son mieux pour réparer les dégâts, pour réparer le gâchis, qui fait de son mieux. Paul, ce grand frère dans la foi du premier siècle, il nous ouvre son cœur. C'est un modèle pour nous, c'est un modèle qui marche dans les pas de Jésus, rempli de l'esprit, conduit par l'esprit. Et il nous montre ses observations, comment il voit et constate le gâchis, comment son cœur est touché, comment il laisse son cœur se toucher au point qu'il peut dire « Je voudrais être séparé de Christ et maudit pour le salut de mes frères. » À ce point-là, parce qu'il a observé qu'il a laissé son cœur être touché. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Si vous deviez commencer une phrase qui résumerait votre état par cette préface, qu'est-ce que serait la suite? Qu'est-ce que serait la suite? Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'aimerais terminer sur cette note d'espérance. C'est possible. C'est possible. Comme Paul, comme Hudson, comme Moïse, comme ces gens, comme ces frères, ces modèles que nous avons. Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Alors, observons. Ne détournons pas le regard. Laissons-nous toucher. Ne nions pas les sentiments. Et soyons déterminés, comme Paul, pour y aller. Et j'aimerais terminer par la prière en invitant vraiment le Saint-Esprit. Parce que, comme vous l'avez réalisé, ça ne peut pas faire, ça ne vient pas par nos propres forces, mais c'est parce que l'Esprit de Jésus qui l'a fait pour nous veut le faire au travers de nous, pour ceux qui nous entourent. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci parce que tu as fait cela. Tu as quitté ton trône céleste, tu as quitté tous tes bénéfices, tous tes avantages pour venir sur cette croix, écrasé sous la colère de Dieu, coupé de sa présence pour nous. Seigneur, je prie que ton esprit puisse nous remplir ce matin. Je prie que ton esprit de courage pour faire face et voir ce qui se passe vraiment autour de nous, ton esprit de compassion qui compatit avec le gâchis qui est en train de se passer et les gens qui sont loin de toi puissent toucher nos cœurs, vraiment, viens toucher nos cœurs. Je ne sais pas comment les personnes ont reçu ce texte, ce message, ce passage ce matin. Père, mais je prie vraiment que ton esprit agisse. Nous avons besoin de ton esprit par nos propres forces. Tu vois à quel point nous sommes incapables. Mais permets-nous, Père, de prendre ces décisions par ton esprit. Je vais regarder et je vais me laisser toucher et je vais être déterminé comme Paul. Seigneur, viens, Seigneur, touche par ton esprit. Dans le nom de Jésus. Amen.